Merci le groupe Louange qui était animé par Jean Villard. Merci Jean pour le choix des morceaux. Donc l'église de Villard ne lui appartient pas, c'est nous appartient nous si jamais. Donc pour le programme ce matin, c'est Claude Pécheur qui va nous donner le message. Et puis après, il y a monsieur Blaise Alain Krebs qui vient de la Frée qui est parmi nous. Bienvenue ce matin. Va nous parler en quelques minutes pour se présenter. Après, on va terminer par la scène. Donc, Claude, c'est à toi maintenant.
L'occasion pour moi de vous saluer les uns et les autres. Gloire à Jésus, notre roi, c'est tout un discours politique, surtout en Suisse. Où on n'a pas de roi, nous croyons que la sagesse de Dieu s'est incarnée en cet homme qui est notre chef de file et notre sauveur simultanément, qu'il est la sagesse de Dieu pour une création guérie. Mais longtemps avant la venue de Jésus, il y a des gens qui ont réfléchi à la sagesse. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste que nous en sommes, appelé aussi Coélète dans certaines Bibles. C'est un livre insolite que les églises rarement touchent. Et nous avons décidé cette année, chapitre après chapitre, mois après mois, une fois par mois, d'avancer dans ce livre pour le découvrir. Nous en sommes au chapitre 5e, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 6e et au verset 12. L'Ecclésiaste est là, dans nos Bibles, et nous rassure sur le fait que la foi, ce n'est pas oublier la réalité. Parce qu'il y a des fois et des religions qui servent à s'évader de la réalité. Or, l'Ecclésiaste nous rassure. C'est dans nos réalités que la foi veut nous rejoindre. Je veux écouter Dieu dans ses réalités, pas toujours faciles, et lui faire confiance. Voici les points qui sont abordés dans ce passage. Nous prendrons surtout du temps sur 1 et 2 et sur 5 et 6. Ça doit vous soulager. La religion et la vie, le rapport à Dieu et le rapport au bien et aux autorités. Tout d'abord, c'est intéressant que l'Ecclésiaste veut nous dire quelque chose quand on va à la maison de Dieu. On est sans doute en Judée, c'est une région monothéiste, et sans doute que l'Ecclésiaste est un traité sur la philosophie, sur la sagesse, sans doute dans un temps où soit les Égyptiens avec Ptolémée, soit les Grecs, après les conquêtes d'Alexandre, essayaient de tout niveler, de tout niveler. Vous savez, il y a des idéologies dans le monde qui essayent de tout niveler. Même les plus aînés parmi nous ont vu la fin de l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Il y a des tout nivelés idéologiquement. On est dans un tout nivelé autrement en ce moment, mais ce n'est pas la question. L'adoration respectueuse, c'est juste une précision très importante pour nous. Après, une fois que l'injustice est rentrée dans un système, il y a toute une hiérarchie qui cautionne ce système, c'est l'exemple tordu des autorités. Toutes les autorités ne sont pas tordues, on s'entend bien. Hein ? Il y a des exceptions. Et 3, 4, 5 parlent de l'argent. C'est d'ailleurs assez intéressant. Le parallèle de l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne, où il parle de la prière et en même temps de l'argent tout de suite après, et là, de Dieu, la prière, et tout de suite après de l'argent. Et il pose des questions philosophiques. Le capital que l'on aurait, vous savez, les réserves, sans goûter au bonheur. En fait, on se demande après quoi on court, le capital ou le bonheur. Qu'y a-t-il de bon pour l'homme ? C'est les questions finales que l'on verra. Et on sera là, à la moitié du livre de l'Ecclésiaste, les prédications des autres mois serviront à répondre aux questions finales. J'ai regardé les commentaires que l'on peut trouver de livres de Coëlette ou de l'Ecclésiaste. C'est un féminin, l'Ecclésiaste. Ou plutôt la sagesse qui prie, qui crie. Et il y a Jean Durandeau qui a écrit un traité de commentaires qui porte le titre « Une foi sans névrose ?» Point d'interrogation. Enfin, vous inquiétez pas, on est tous un peu névrotiques, mais la névrose, c'est une affection nerveuse caractérisée par des troubles affectifs et en général qui n'altère pas la manière de penser. Mais ça touche l'être humain après un traumatisme ou quelque chose, névrose. Une foi sans névrose, autrement dit, est-ce qu'il existe quelque chose comme une foi saine? Je n'ai pas dit sainte, mais saine, vous comprenez? Qui nous met en phase avec la réalité et qui nous aide pas simplement à nous évader de la réalité. Ou alors, vous avez le procès du bonheur par Coëlette. Le procès des bonheurs. Je ne sais pas quelles sont les définitions que l'on a. Toujours est-il que ce livre a quelque chose d'intéressant pour nous tous. Il cherche quelque chose de durable. Qu'est-ce qui est durable? On dit, dans le Nouveau Testament, l'amour est la seule chose qui dure, d'accord? Mais ici, il fait tout le détour avec ces gens qui sont de philosophie grecque ou égyptienne, qui étaient venus envahir le pays, mais aussi pour les Juifs, qui étaient imprégnés de cette philosophie des autres définitions du bonheur. L'Ecclésiaste, ce que j'aime chez lui, c'est une personne honnête. Il va nous aider à voir comment pensent les hommes droits, et aussi à nous avertir. Si vous allez ici, si vous vivez ceci, si vous expérimentez cela, si vous goûtez ça, surtout si vous achetez cette voiture, si vous possédez, si vous donnez, nous dit-on, vous verrez, vous serez alors heureux. Et toute la pub nous a catéchisés tous les Suisses que nous sommes, et les étrangers aussi, par des fausses définitions du bonheur. Quand je l'aurai, alors ce sera bien, mais quand je l'ai eu, ça ne suffit pas. L'Ecclésiaste passe en revue des vanités, des creux, du vent, des vapeurs, si vous voulez. Vanité des vanités, c'est-à-dire super vanité, super tromperie. Par exemple, par la recherche de la sagesse, c'est du vent. Par la recherche effrénée des plaisirs, ça ne comble pas. Par les grands travaux que je vais faire, moi le roi, c'est l'Ecclésiaste, c'est un ancien roi, c'est du vent. Par l'activité humaine, bien que celle soit bonne, mais c'est du vent. Regardez le nombre de gens qui se suicident après la retraite. Par l'accumulation des richesses, c'est du vent. Par une religiosité effrénée, c'est du vent. C'est ce qu'on va voir. C'est du vent, cela veut dire, cela passe très vite et on sera oublié. Et des fois, on peut être un peu embarrassé par l'Ecclésiaste parce qu'il a une définition très simple du bonheur. Et je pense, nous aussi, nous avons besoin de réentendre cela. Je commence par cela. Dans l'église où mon papa nous a amenés quand j'étais enfant, il y avait sur le fronton ce passage biblique. Imaginez, vous, que chaque fois que vous rentrez dans l'église, vous avez ça devant vous. Prends garde à tes pas, c'est-à-dire à ta manière de te conduire. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Là, c'est le temple pour les Juifs. Prends garde à tes pas quand tu vas dans la maison de Dieu. Approche pour écouter. Écoutez la suite. Plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. Car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. C'est bizarre, vous connaissez ce passage biblique? Prends garde à ta manière de te conduire, tes pas. Quand tu vas à la maison de Dieu, approche pour écouter plutôt que pour faire des sacrifices. Et ça rejoint un autre enseignement de la Bible, c'est Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance du Seigneur ? C'est souvent autre chose que la projection que nous faisons de ce qu'il veut. Alors c'est juste une manière de dire, les amis, quand on s'approche de Dieu, n'utilisez pas un bavardage religieux qui sature les choses et nous fait échapper de la réalité. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu, approche pour écouter. Alors approche pour écouter, ça ne veut pas dire approche pour écouter le pasteur, bien qu'il ait la propension de parler longuement. Dieu parle dans l'Église de différentes manières. En fait, ça fait 2 mois que j'ai plus prêché ici, donc il faut que je me rattrape un petit peu. Car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Autrement dit, quand on sort et qu'on agit, continue à agir mal, et qu'on a adoré Dieu, c'est faux. Et on peut faire des sacrifices en agissant mal. Le but n'est pas le sacrifice. Le but est d'écouter Dieu, nous interpeller, et remettre à bas nos fausses définitions du bonheur éventuellement. Nous continuons, et le chapitre 5, versets 1 à 7, l'adoration respectueuse. De quoi s'agit-il ? D'abord, sachez que Dieu est mentionné dans ce livre de l'Ecclésiaste 30 fois. Mais le nom qui est donné à Dieu n'est pas le nom du Dieu de l'Alliance. Vous n'avez pas de référence aux prophètes et à la loi de Moïse dans l'Ecclésiaste. C'est comme s'il s'adressait à des païens normaux, vous voyez ? Qui ne présuppose pas l'alliance avec Abraham. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot « Yahvé » dedans. Il y a le nom qui est donné généralement dans tout le Moyen-Orient pour le Dieu de la création. La sagesse qu'il va tirer, c'est la sagesse minimale que tout le monde peut voir, croyant ou malcroyant ou incroyant. C'est le Dieu qui s'appelle Elohim. Qu'est-ce qu'on peut tirer ? Alors nous lisons ensemble, on reste toujours dans le rapport à Dieu. Je lis chapitre 5, verset 1. « Ne te presse pas. » Bon, il faudrait qu'on lise quelque chose d'autre. « D'ouvrir la bouche, que ton cœur ne... » Oui, c'est ça, c'est juste. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. » Autrement dit, on ne débarque pas chez Dieu pour être bavard. D'abord, on l'a vu juste avant. On écoute. Parce que quand on est bavard tout de suite, on risque de demander à Dieu des choses qui sont mauvaises pour nous. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Bon, il y a des chrétiens qui s'appellent les Quakers, où l'essentiel du culte, c'est le silence. Et à la fin, une femme, un homme, indifféremment, dit qu'est-ce qu'il pense avoir reçu du Seigneur. C'est très court, et on s'en va. Ça va ? Je dois m'entraîner. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Le culte, c'est devant Dieu, non ? Le problème, c'est que généralement, ça risque d'être devant nous. Les questions d'image. Devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, comme le rêve vient de la multitude des occupations, enfin moi je sais que quand je rêve beaucoup, c'est que quand j'ai beaucoup de responsabilités à droite, à gauche, j'ai plus le temps de souffler, j'ai plus le temps de silence, alors... Dans mon cerveau, dans le vôtre aussi, on récupère, on remet le puzzle en place et puis ça brasse, non ? Bon, il y a des mots psy pour le dire mieux que ce que je viens de dire, mais c'est quand même comme ça. Comme le rêve vient de la multitude des occupations, la voix de l'homme devant Dieu, stupide, vient dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, souvenez-vous, ceux qui connaissent le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, ont fait le vœu de consacrer leur propriété à Dieu. D'accord, vous vous souvenez ? Lorsque tu fais un vœu à Dieu, un engagement. On n'est pas obligé de faire des engagements auprès du Seigneur si toute notre vie appartient au Dieu créateur. Il y en a qui font des trucs spéciaux. Mais si tu le fais, ne tarde pas à t'en acquitter. Autrement dit, trompe pas Dieu dans tes paroles. Trompe pas Dieu. car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Acquitte-toi du vœu que tu as fait. La religion, le bonheur ne viendra pas d'elle non plus. Le bonheur ne vient pas de la religion nécessairement. C'est ça. Toutes les spiritualités ne sont pas bonnes à prendre. C'est Jésus qui nous a aussi appris ça en nous apprenant la prière de notre Père, n'est-ce pas ? L'Ecclésiaste vivait au milieu d'un peuple qui était religieux. Souvenez-vous, ils allaient au temple, ils savaient prier, ils faisaient des sacrifices, ils savaient chanter les psaumes, ils savaient réciter des prières. Mais la religion peut être comme une drogue si on ne veille pas à prendre garde à tes pieds avant que tu ne rentres. Ici, l'Ecclésiaste passe du constat qu'il faisait jusqu'alors, et tout d'un coup, c'est une des premières exhortations. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole à Dieu. Et pourtant, nous aimons, nous disons, tendre Père, j'aime parler avec toi, n'est-ce pas ? Il est certainement un tendre Père, mais il est aussi Dieu. À ne pas confondre avec les humains. Alors la prière de demande, que d'exprimer une parole, la prière de demande, même dans le temple, n'actionne aucune magie. Ce n'est pas parce que tu es dans le temple, et même pas que la doctrine est juste, que la prière de demande actionne une magie. Il reste Dieu. Il reste une créature, faite pour la communion. La vraie prière se distancie du moulin à prière, centré sur soi-même. De nos jours, l'intérêt à jouir tout de suite, le gros paquet, « Seigneur, puisque tu es là, j'ai besoin de toi, tu me délivres de toutes mes maladies. » Certes, c'est bien de prier pour les maladies, pour la guérison. On a même le mandat de le faire, mais Dieu ne nous délivre pas magiquement de toutes les situations de détresse dans lesquelles nous aussi pourrions vivre. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ? Et c'est la dynamique et la tension entre les deux. Le Dieu d'Israël jamais ne sépare le style de vie de la spiritualité. Autrement dit, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur des cieux et de la terre, notre Sauveur et Seigneur, ne nous délivre pas nécessairement de l'épreuve, mais il nous délivre dans l'épreuve. Et Dieu, que ça fait une différence. J'aime l'Ecclésiaste, il ne nous trompe pas sur la marchandise. Dieu est au ciel, toi sur la terre. Ça évoque la révérence de Dieu. Respecter sa différence sans le fuir, parce qu'il y a d'abondantes joies en sa présence. Mais ce n'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui sommes à son service pour notre bonheur. J'aime que dans nos célébrations, nous trouvions au moins trois choses. L'écoute, d'une manière ou d'une autre, de Dieu. Deuxièmement, la possibilité de donner un écho dans la prière pour tous, ceux qui veulent. Et troisièmement, de trouver une orientation de vie qui s'appelle la communion, naissante déjà au milieu de nous et débordante dans nos métiers, dans nos situations de vie. Il y a 15 jours, nous avions une pastorale extraordinaire. J'utilise pas souvent ce mot, n'est-ce pas ? L'Union d'Église qui s'appelle l'AFRE, à la Marive, vous aviez entendu l'intervenant, il s'appelait Stuart Murray. Et notamment, il nous dit que les églises anciennes comme nouvelles devraient se concentrer sur Dieu en Jésus-Christ, mais également développer des amitiés vraies et authentiques. Pas juste superficiel et du toc. Hein. Troisièmement, traiter les gens qui la composent comme des adultes, c'est ce que j'essaye de faire en vous parlant. Quatrièmement, être suffisamment honnête pour se remettre nous-mêmes en question. Et vous ne vous étonnerez pas qu'il continue avec être dans la réalité qu'on vit. En lien avec les défis. Alors voilà, je retiens de ça, écoutez, pour que ce ne soit pas un monologue, mais où on fait place à Dieu. Je passe au passage d'après, Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un sans t'en acquitter. Ça, nous l'avons vu. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur. Si la bouche, elle trompe, le reste est trompé et c'est la névrose. Enfin, vous saisissez ? Le mot névrose ne se trouve pas dans la Bible. C'est trop tôt. Et ne dis pas devant le messager, c'est-à-dire le sacrificateur ou le pasteur ou peu importe, hein, que c'était une erreur. Oui, tu m'as entendu m'engager, mais finalement, je garde mon fric. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains ? Autrement dit, ça va te faire du mal. Fais pas ça, ça va te faire du mal. Car dans la multitude des rêves, il y a des futilités, c'est-à-dire dans la multitude des désirs que l'on dirait, Seigneur, fais ci, fais cela, et ajoute encore ceci, et s'il te plaît de mettre de la confiture dessus, etc. Hein ? Dans la multitude des rêves, il y a de la futilité. De même, quand il y a beaucoup de paroles, aussi, conclusion, révère Dieu. On continue. Maintenant, une fois que vous avez une société de domination, qu'elle soit égyptienne, grecque ou américaine, ou peu importe, si tu vois dans une province, canton de Vaud, qu'on opprime le pauvre, si tu vois qu'on opprime le pauvre, autrement dit, le pauvre reste de plus en plus pauvre, on le néglige, il y a un système qui est bien huilé, mais le pauvre, on le délaisse. Et on le laisse pauvre, et les enfants des pauvres deviendront de plus en plus pauvres, d'accord ? Vous voyez le système ? Peu importe quelle économie est en question. Si tu vois dans une province qu'on opprime le pauvre, on dépouille le droit et la justice, du droit et de la justice, ne sois pas stupéfait de la chose. Car un personnage haut placé protège un autre personnage haut placé. En langue française, on dit la politique du parapluie. Hein. Un personnage haut placé en protège un autre. Et il en est encore de plus haut placé qu'eux. Autrement dit, c'est en cascade qu'on a organisé l'injustice. En cascade. L'avantage de la terre est pour tous. Tiens, on dirait que c'est de la politique économique. L'avantage de la terre est pour tous, c'est-à-dire tout le monde doit pouvoir en profiter. Même un roi est tributaire de la campagne. Alors ça paraît bizarre, mais regardez les rois comme ils tremblent quand il y a un soulèvement populaire. Et quand est-ce qu'il y a des soulèvements populaires ? Quand tout va bien ? Non, c'est quand on a organisé des injustices. Alors, c'est intéressant d'écouter ce qu'il est dit ici. Une des caractéristiques de Dieu qui fait alliance, vous savez ce qui est caractéristique ? Il y a plein d'alliances religieuses dans tout le Moyen-Orient du temps d'Abraham, mais il y a une alliance qui est particulière où Dieu se fait connaître. Il sauve un peuple, il fait un traité, et le traité qu'il fait, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il fait le traité non pas avec le roi et les religieux, mais avec un peuple. Vous serez mon peuple. Vous saisissez ? C'est quand même une grande différence dans la révélation biblique. Les grands oppriment ceux qui les font vivre et toute la hiérarchie des autorités fonctionne sur cette philosophie. Et l'argent est donné à ceux qui ont besoin d'argent, c'est-à-dire les puissants ont besoin de donner de l'argent pour l'armée égyptienne ou l'armée assyrienne. Classique. L'exemple tordu des autorités. Autrement dit, ce qui se passe dans le culte et le temple peut se passer très bien dans le domaine économique. C'est la même logique. On peut tromper. Le bonheur ne vient pas nécessairement du culte, le bonheur ne vient pas nécessairement du politique. Pas nécessairement. Ça peut, mais pas nécessairement. Ne pas s'étonner de l'organisation de l'exploitation, mais nous retenons que le bonheur est ailleurs que dans les circonstances. Ici, j'aimerais juste vous dire, un culte qui est droit donne d'être lucide, c'est-à-dire d'avoir un regard juste sur ce qui est en train de se passer. Un culte qui est tordu s'en fiche de la réalité, donc c'est juste une bulle en l'air, et ça ne touche pas la réalité. Une église qui a un culte qui est droit est une église qui est prophétique et saura même dire que ça, c'est pas juste de fonctionner comme ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'Ecclésiaste ? On continue. Celui qui aime l'argent, oui, parce que ça n'existe pas, être neutre philosophiquement. Ça n'existe pas être neutre religieusement. Même si on dit « je ne crois pas qu'il y ait un Dieu », vous courez après quelque chose. Et regardez les Suisses romands après quoi ils courent en général. Allez sur les places, allez dans les rues, regardez. Regardons-nous aussi peut-être éventuellement après quoi on court. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait bosser jusqu'à épuisement ? J'ai rien contre le fait de bosser. C'est même un cadeau de Dieu, dira l'Ecclésiaste. Mais celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ça ne vous rappelle pas Jésus ? Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est la personnification, l'esclavagiste. Ou tu sers l'un, ou tu sers l'autre. Je trouve ça extraordinaire comme principe. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'abondance n'a pas de revenus. Oui, parce que il gagne rien puisqu'il est toujours en train de chercher à gagner. C'est encore là une futilité. Autrement dit, c'est de la vapeur, c'est du vent, c'est vanité. Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi. Quel bénéfice en ont les propriétaires sinon qu'ils le voient de leurs yeux ? Le sommeil du travailleur est doux. Qu'il ait peu ou beaucoup à manger, il reste doux. Ça ne vous rappelle pas la fable du savetier, le faiseur de souliers et du commerçant de Jean de La Fontaine ? Vous savez, ce savetier qui avait ce qu'il faisait, il chantait dans son atelier et il avait juste assez de travail pour manger tous les jours. Ça vous dit rien ? Et vous, non ? Eh, vos classiques, messieurs, dames. Et voilà que le commerçant avait un gros magot, mais il ne dormait pas. Un énorme magot. Et il vivait de ce que rapportait son magot. Et il ne dormait pas. Et il entendait le savetier qui chantait. Et il dit, j'ai envie de pouvoir chanter comme lui. Alors il est venu chez le savetier. Et il lui a donné le gros magot. Et le savetier a dit, ah, c'est extraordinaire. J'ai 3 ans de réserve en avance. Je peux m'arrêter. Ça vous dit rien ? Vous voulez à la suite ? Et le savetier, il enterre le magot, il monte dans son échoppe, et il commence à avoir des peurs, et la nuit il dort plus, et il dort plus, et il dort plus. Jusqu'au moment où il retourne chez le commerçant et il dit « Reprends ton magot, je préfère pouvoir chanter tous les jours et travailler pour gagner ce que je mange tous les jours. » C'est juste intéressant. Ici, on a un petit peu la même chose. Le sommeil du travailleur est doux, mais je n'ai pas dit le sommeil du chômeur est doux. Hein. Je souhaite à tout le monde qu'ils aient un travail qui leur plaît. C'est bon de pouvoir gagner et avoir de quoi donner. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, la satiété du riche ne le laisse pas dormir. Ça ne vous rappelle pas, Jean de La Fontaine ? Et il est un malheur affligeant que j'ai vu sous le soleil. Je vous ai dit, il s'est promené avec son appareil photo, il a pris des photos dans la société, et voilà ce qu'il a pris comme photo. La richesse que son propriétaire garde pour son malheur. Cette richesse se perd dans une mauvaise occupation, le fils qu'il a engendré n'a plus rien en main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, comme il était venu. De son travail, il n'emportera rien qu'il puisse conserver dans sa main. C'est encore là un malheur affligeant. Il s'en ira exactement comme il est venu, c'est-à-dire tout nu. Et quel avantage aura-t-il à avoir travaillé pour du vent, c'est-à-dire travailler sans s'être arrêté pour être reconnaissant. Attention, l'Ecclésiaste n'est pas contre le travail, je voudrais que vous le sachiez, partout ailleurs, hein. Mais une bonne, juste proportion du travail, mais aussi un moment où on peut jouir du travail de ses mains. Regardez la suite. Quel avantage aurait-il à avoir travaillé pour du vent ? Il consume ainsi toutes ses journées dans les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'il est mort ici, c'est les ténèbres d'un moment où il ne voit plus le jour, parce qu'il est dans son travail. Il est juste addict. Il court, il ne sait plus après quoi il court. Beaucoup de contrariétés, d'afflictions, d'irritations. Voici ce que moi j'ai vu. Deuxième photo. Il est beau pour l'homme de manger, de boire. C'est un peu troublant pour nous, une définition du bonheur comme ça. C'est d'ailleurs la plupart des gens dans ce monde aujourd'hui sont tout à fait différents de nous. La plupart des gens de ce monde, ils ont un but, pouvoir avoir un bon repas chaque jour. Et on l'oublie pas. Ici, il y a un rappel pour nous autres occidentaux. Est-ce que nous n'avons pas décalé, déplacé nos définitions du bonheur? Ici, il est dit, voici ce que moi j'ai vu, il est bon, il est beau pour l'homme et la femme, hein, c'est l'humain, de manger, de boire et de voir le bonheur dans son activité qu'il fait sous le soleil. Sous le soleil, ça ne veut pas dire que ça lui a brûlé la tête, hein, l'homme. Sous le soleil, ça veut dire que c'est universel. Manger, boire, du bonheur dans son activité. Est-ce que ceci est quelque chose qui, quand je l'ai, je pourrais dire, Claude, je suis heureux? Ou est-ce que j'ai finalement, sans en être conscient, d'autres définitions de ce qui me rendra heureux? Vous saisissez? Alors, pardon pour les personnes parmi vous qui ne sont plus en mesure physique de travailler et qui est à la retraite, ceci reste pour vous. Pouvoir manger, pouvoir boire et me mouvoir avec les forces que j'ai. Pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, c'est là sa part. Drôle de définition d'un bonheur simple, non? Bonheur simple, bonheur frugal. La vanité de la prospérité. Les aînés n'ont plus autant de désirs, plus autant de force et soulignent « l'argent ne fait pas le bonheur ». Tandis que la jeune génération, on les claque l'argent, il file entre les doigts, on n'en a jamais assez et il y a toujours mieux à acquérir et le bonheur ne l'accompagne pas nécessairement. Grosso modo, c'est ça que je propose que nous puissions retenir. Nous continuons à lire. Vous êtes d'accord de continuer à découvrir un petit peu l'Ecclésiaste ? Jouir de sa peine et de son travail, la peine et de son travail, chapitre 5. D'ailleurs, pour tout être humain à qui Dieu a donné richesse et bien, et à qui il a accordé le pouvoir de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de se réjouir de son travail, c'est là, cadeau de Dieu. On n'a pas l'habitude de dire « c'est cadeau de Dieu ». On a juste l'habitude de dire « c'est normal, ça m'est un dû ». Ce n'est pas un dû, c'est cadeau de Dieu. Si ce matin, dans les actions de grâce, nous pouvions dire « Seigneur, je te remercie parce que j'ai pu manger aujourd'hui de bonne nourriture, j'ai pu boire de l'eau propre, j'ai une activité, j'ai des relations, et j'aimerais juste te dire « Seigneur, merci ». C'est peut-être un peu décalé par rapport à ce qu'on nous affiche dans les panneaux publicitaires, mais c'est un rectificatif qui est juste et bon. En effet, dit verset 19, « Oh, il ne songera guère à la durée de sa vie, tant que Dieu l'occupe à la joie de son cœur. » C'est autrement dit, il ne trouvera pas que sa vie est longuette. Tant que dure, que Dieu l'occupe à la joie de son cœur. Drôle de définition. On continue à faire un petit peu de lecture. Le capital sans goûter le bonheur. Il est un malheur, chapitre 6, verset 6, que j'ai vu sous le soleil et qui accable l'être humain. Il y a tel homme à qui Dieu a donné richesse, bien et gloire, c'est-à-dire le prestige de son rang, à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire, mais Dieu ne lui a pas accordé le pouvoir de s'en nourrir. Autrement dit, d'en jouir, d'en être reconnaissant. C'est là une futilité et un mal affligeant. Si un homme engendrait 100 fils, messieurs, dames, c'est beaucoup. Et vivait un grand nombre d'années, aussi nombreux que soient les jours de sa vie, autrement dit, s'il n'est pas rassasié de bonheur et qu'il n'ait même pas de sépulture, les fils, ils ne sont même pas occupés d'enterrer le papa. C'est glorieux ça, hein ? Sans fils, ça veut dire qu'il a un énorme capital, parce qu'au Moyen-Orient, sans fils, vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas très riche. Hein ? Et en même temps, la mentalité de la génération qui vient n'enterre même pas ou ne met pas de sépulture. Je dis que l'avorton est plus heureux que lui. Car il est venu, l'avorton, dans la futilité, et il s'en va dans les ténèbres, et son nom sera recouvert par les ténèbres. Il n'a ni vu ni connu le soleil, l'avorton. Il y a plus de repos pour lui que pour l'autre. Qui c'est l'autre ? Celui qui avait 100 fils. Il y a plus de repos pour lui que pour l'autre. Autrement dit, pourquoi tu vis ? Quand il, l'être humain, vivrait 2 fois 1000 ans, c'est plus que Mathusalem, qui avait à peu près 1000 d'après la Bible, 2 fois Mathusalem, sans voir le bonheur, tout ne va-t-il pas dans le même lieu, c'est-à-dire dans le néant ? Voilà, je crois que là, on voit quelque chose de très important. On trouve des réponses à l'insatisfaction, parce que le cœur ici de l'Ecclésiaste, c'est ce qui en nous n'est pas satisfait. La réponse de l'Ecclésiaste à l'insatisfaction humaine se trouve « Il est beau pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur dans tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. » C'est un don de Dieu. Voici la réponse à l'insatisfaction et ça doit s'entraîner. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça juste parce que ça naît de nos cœurs. Ça doit s'entraîner. Le contentement, ça s'appelle. C'est là un don de Dieu. Et on trouve ça au chapitre 6, verset 9. « Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce que l'on pourrait désirer par la pensée. » C'est important, et c'est ça que je voudrais souligner sur ce point, de cultiver la reconnaissance pour les joies simples. Faites-le. Par exemple, chaque fois que vous avez un repas, peu importe la forme, dansez, chantez, dites « Merci ». Et le contentement, la reconnaissance et le contentement comme lieu où ce qui nous comble vraiment peut naître. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils bossent comme des fous, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont menés par le bout du nez par cette idole qui est l'accumulation, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils compensent par la violence, ils compensent par l'abus, ils maltraitent les autres parce qu'ils compensent. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Vous saisissez pourquoi l'Ecclésiaste, c'est intéressant de le laisser nous rejoindre. On termine avec ça. Qu'y a-t-il de bon pour l'humain ? Qu'y a-t-il de bon pour l'humain ? Tchekhov disait « L'homme a soif de vie et il croit qu'il a soif de vin. » Tout le travail de l'être humain, c'est pour sa bouche. Juste la sienne, pas les autres, mais s'il a encore en plus, il peut nourrir d'autres. Et pourtant, son désir n'est pas comblé. Ça, c'est le problème. Qu'est-ce qui me comble ? Vous êtes déjà posé la question, quand vous rentrez et que vous aurez une fois un temps pour rien, si ça existe encore en Suisse, vous prenez un papier et dites « Voici ce qui va combler Claude ou vous-même. » Et soyez honnête avec vous-même. Ça aide. Que reste-t-il de plus au sage qu'à l'homme stupide ? Autrement dit, qu'est-ce que la sagesse va amener ? Qu'est-ce qu'elle va changer ? Quel avantage a-t-il le pauvre qui sait pour marcher devant les vivants ? Autrement dit, quand un pauvre devient sage, qu'est-ce que ça change ? Mieux vaut voir de ses yeux, et c'est là que je vous ai dit, la vraie croyance dans le Dieu biblique nous aide à voir juste. Vous saisissez ? Et pas à nous évader de la réalité. Nous aide à voir juste, c'est-à-dire à voir la réalité. Notre réalité, la réalité autour de nous. Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. Le mot imagination, c'est le même mot que le mot appétit ou désir ou âme. Ou âme, c'est drôle, hein ? En hébreu, c'est un mot gâteau. Le mot, le soi profond, l'âme. Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son fantasme. Enfin, vous, son imagination. C'est encore là la chose creuse et poursuite du vent. Qu'est-ce qui va me combler ? Au fond, quel est l'avantage du sage qui médite ses questions sur la sagesse ? Et la sagesse explore les manières creuses de penser. Merci Seigneur pour l'Ecclésiaste dans nos Bibles. Pour finalement suggérer très fortement une piste pour la vie. Respecte Dieu, il y a une intelligence pour tout cela. Développe le contentement et la jouissance dans la reconnaissance des biens élémentaires. Le bonheur se trouve dans la jouissance des besoins élémentaires, dans une certaine sobriété qu'il nous faut reconquérir dans notre société. Ce bonheur, c'est un don de Dieu, que Dieu veut faire à chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse notre écoute.